Chapitre 13. Norouze s'est décidé, cria Mautravers. Bravo! Mais ce ne fut pas le duc qui prit place à la table, ce fut Raphaël. Pour lui, il resta debout derrière elle, appuyé sur le dossier de sa chaise. C'était Poupardin qui avait les cartes en main et il criait très haut, la tête renversée en arrière, glorieusement. « Je tiens tout ce qu'on voudra !» En réalité, à l'exception de Saint-Austreberte, qui, depuis que la veine était de son côté, jouait gros jeu, il n'avait pas grand-chose à tenir, les mises étant assez modérées, et même celles d'Esser-Marie s'étaient honteuses. Un louis qu'elle risquait timidement, avec émotion, en comptant, par un rapide mouvement de pouce, les 10 ou 12 pièces d'or qu'elle tenait dans sa main gauche, sachant bien par expérience qu'elle avait passé l'âge où les femmes peuvent emprunter, avec certitude de n'être pas refusées plus ou moins durement. En venant du petit salon dans le grand, Roger avait glissé dans la main de Raphaël une liasse de billets de banque. « Que faut-il mettre ? » demanda-t-elle en se haussant jusqu'à l'oreille de son associé et à voix basse. « Ce que vous voudrez, » dit-il en se penchant vers elle. Elle hésita un moment, tâtant, palpant dans sa main la liasse de billets qu'elle n'avait pas vue et tâchant de l'estimer au toucher. « Eh bien ? » demanda Poupardin en la regardant. Elle n'hésita plus et, bravement, elle mit la liasse sur le tapis, entière et roulée. Que lui importait ? Si elle perdait, c'était le petit duc qui payait. Au contraire, si elle gagnait, elle partageait avec lui. « Il y a ?» demanda Poupardin, qui, malgré ses prétentions à jouer grandement et noblement, voulait savoir au juste ce qui était mis au jeu sur cette liasse, de façon à ne pas payer 1000 louis s'il perdait, et à en toucher 10 s'il gagnait. Raphaël, surprise par la question, se tourna à demi vers Roger. « 500 louis, » dit celui-ci. « Très bien. »« Ah, si le grand-père voyait cela, » dit Mautravers à mi-voix, mais de manière cependant à être distinctement entendu par le duc de Norouze. Le jeu recommença. Raphaël gagna. Elle n'hésita plus. Vivement, elle fit un tas des billets que Poupardin lui jeta en le réunissant à celui qui était devant elle et, d'une voix vibrante, les yeux flamboyants, « Tout va !» dit-elle. Elle gagna encore. Mais cette fois, en poussant un cri de triomphe, elle empoigna les billets à deux mains et, les serrant sur sa poitrine, elle quitta la table. « J'en ai assez !» dit-elle. « Bonsoir !» Il y eut une explosion de protestations. Mais sans les écouter, elle s'assit dans un coin et là, faisant deux parts égales de ses billets, elle en remit une à Roger, elle mit l'autre dans sa poche en la tassant bien. Poupardin dit « Norouze, donnez-moi ma revanche. C'est contre vous que c'est joué. Que Raphaël fasse Charlemagne, c'est bien, c'est féminin. » Mais si j'avais cru ne jouer que contre elle, je n'aurais pas tenu ces coups-là. C'eût été trop bête. Vous savez, Norouze, que je n'ai pas pris l'engagement de veiller sur vous, dit Mautravers en plaisantant. Roger revint à la banque, ayant encore dans les mains les billets de banque que Raphaël venait de lui remettre, et, attirant une chaise, il s'assit en face du banquier. Si, jusqu'alors, il avait refusé de jouer, ce n'était pas qu'il fût dans ses habitudes de ne point jouer. Tout au contraire, il était joueur, joueur passionné. Jusqu'à ce jour, il avait joué toutes les fois que l'occasion lui en avait été offerte, tantôt pour le plaisir, tantôt pour gagner, pour se procurer l'argent qu'il n'avait point et qu'il demandait au jeu. Mais dans le programme qu'il s'était tracé pour le jour de sa majorité, il s'était dit qu'il ne jouerait point. C'était une promesse qu'il s'était faite. Ce jour était son jour de fête. Jamais personne ne lui avait souhaité sa fête. Il s'en donnait une, la première de sa vie. Il ne voulait pas qu'elle pût être attristée par un mauvais souvenir, ce qui pourrait très bien arriver s'il se risquait à jouer. L'appel de Poupardin et le dernier sarcasme de Mautravers achevèrent de lui faire oublier ses engagements. Il tenait 2 liasses de billets de banque. Il en jeta une sur table. « 500 louis, » dit-il. Le banquier lui donna l'une après l'autre deux cartes et s'en donna deux à lui-même. On sait que le jeu de baccarat consiste à chercher le point de neuf ou tout au moins le chiffre le plus rapproché de ce point. On peut demander une nouvelle carte ou s'en tenir à celle qu'on a déjà. Les figures et les dix ne comptent pas. Roger ne demanda pas de carte. Poupardin s'en donna une. On compta les points. Roger avait une figure et un 3. Poupardin, deux figures et un 2. Ce fut une explosion de cris. « On ne joue pas avec cette imprudence ! Noroux est fou ! C'est de la démence ! On ne s'en tient pas à 3 !»« Vous voyez bien que si, dit Roger, on s'y tient et on gagne. » Mautravers, qui, jusque-là, avait poursuivi Roger de ses railleries, changea brusquement d'attitude et de langage. « Bravo, Noroux, dit-il en applaudissant. « Ce que vous avez fait est crâne. Je vous rends mon estime. Voilà comme on joue quand on a de l'estomac. On a foi dans sa chance et l'on ne s'inquiète pas du reste. » Les joueurs d'écartés, attirés par les cris, avaient quitté le petit salon pour le grand et tous les convives se trouvaient réunis autour de la table, comme pour le dîner, avec Saint-Austrebert et Despoudéian en plus. Des mains de Poupardin, le talon passa dans celle de Saint-Austrebert et le jeu continua. Roger laissa sa mise doublée par son gain et gagna encore, cette fois avec un 4 et toujours sans prendre de carte. « Vous voyez bien qu'on gagne avec l'audace !» cria Mautravers. « Noroux, vous êtes un brave !» L'ivresse du jeu est plus prompte encore que celle du vin à troubler la raison et à anéantir la volonté. Quand les cartes arrivèrent aux mains du duc de Noroux, il avait perdu tout sang-froid et toute réflexion. « Comment, Savine, vous ne vous intéressez pas à ma banque ? » dit-il, étonné que le prince, seul de tous les convives, n'eût pas encore pris part au jeu. « Non, cela m'empêcherait de bien voir. » En réalité, ce qui empêchait le prince Savine de jouer, c'était une superstition de joueur unie à une réflexion d'homme prudent. Voyant le duc de Noroux gagner, il se disait qu'un jour de majorité, on devait avoir de la veine. Mais d'autre part, en voyant la façon téméraire dont il menait le jeu, il se disait que, malgré tout, la veine devait tourner, de sorte qu'il n'osait jouer ni avec lui, ni jouer contre lui. Le jeu continua, et, de partie en partie, il devint plus emporté, plus violent. À l'exception de Saint-Austrebert, toujours maître de soi, toutes les têtes étaient affolées et le plus passionné était le duc de Noroux. Ce que le prince Savine avait prévu se réalisa. La veine changea. Autant elle avait été favorable à Roger, autant elle lui devint contraire. Il perdit coup sur coup. Tout ce qu'il avait gagné s'en alla. Alors sa foi dans sa bonne chance chancela. Il voulut bien jouer, raisonner, calculer. Mautravers, qui le suivait de près, vit tout de suite ce changement de système. « Ne jouez plus, dit-il amicalement, vous n'allez faire que des sottises. » Dans les dispositions où se trouvait Roger, ce conseil ne pouvait avoir pour résultat que de le pousser plus avant dans la bataille et de lui faire faire des sottises qu'on lui prédisait. Il joua follement, non en joueur, mais en homme qui n'a peur ni de perdre, ni de faire des sottises. Voyant cela, tout le monde joua contre lui, Savine comme les autres, mais plus gros jeu que les autres. À 1 heure du matin, le duc de Noroux perdait 800 000 francs, représentés par des cartes qui portaient, écrits au crayon, le chiffre de ses dettes envers chacun. 300 000 francs à Saint-Austrebert, 200 000 au prince Savine, 10 000 à Balbine, 2 000 à Esther Marix, etc. Seul, Raphaël n'avait pas joué contre lui, et au moment où il s'était trouvé sans argent, elle lui avait apporté les 20 000 francs qu'elle avait tassés avec tant de soin au fond de sa poche. Ayant perdu le dernier coup qu'il s'était fixé, Roger se leva avec calme en repoussant sa chaise. « Qui prend ma place ? » dit-il en regardant autour de lui. « Je la cède avec plaisir. » Personne ne répondit. Le coup perdu, Raphaël s'était tourné vers une des jardinières et là, elle cassait des branches de lilas pour s'en faire un bouquet. Bien qu'elle parût absorbée dans cette occupation, elle ne perdait rien de ce qui se passait et de ce qui se disait. Elle vit venir le duc à elle et sentit qu'il se penchait au-dessus de son épaule. « Êtes-vous femme à consoler un vaincu ? » dit-il à voix basse en lui effleurant l'oreille. Elle tourna à demi la tête et, le regardant dans les yeux, « En l'admirant, oui, dit-elle. »